Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Didier Blé.
Merci de nous retrouver pour cette première édition de la matinée. Bonjour à tous et bienvenue. La sixième réunion du comité régional pour la région Afrique de l'Ouest de l'Alliance solaire internationale s'est ouverte mercredi à Abidjan. Tous les acteurs clés du secteur sont présents pour discuter des avancées, mais surtout des projets. Et puis 100 femmes de la commune de Koumassi ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat, une formation justement initiée par le district d'Abidjan, avec pour objectif de former les femmes à l'auto-emploi. En page africaine, ce 30 août est la journée nationale de libération au Gabon où la transition est à mi-chemin. Nous aurons la revue des titres présentée par Jean-Claude Comet et puis l'invité de la rédaction ce vendredi est Emmanuel Trabi, le directeur de l'industrie au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, la promotion des PME. Interrogé par Linda Ballier, l'entretien tournera autour de la récente décision prise par le ministère de suspendre l'activité de plusieurs entreprises de fabrication de matériaux de construction. Bienvenue à tous. Ouverture de la sixième réunion du comité régional pour la région Afrique de l'Alliance solaire internationale qui se tient dans la capitale économique ivoirienne. Tous les acteurs clés du secteur sur le solaire sont à Abidjan pour discuter des avancées mais surtout des futurs projets, occasion pour les autorités ivoiriennes de faire le point en Côte d'Ivoire. Martin Touré.
L'on retiendra surtout que plus de 100 campements de plus de 500 habitants seront électrifiés par des mini-centrales solaires photovoltaïques d'ici 2030. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, assurant l'intérim de son collègue des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a rappelé les projets mis en place par la Côte d'Ivoire pour réaliser le succès de son mix énergétique.
À ce jour, le cumul de la capacité des projets solaires engagés pourrait être réalisé d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a mis en service en avril 2024 sa première centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 30 MW connectée au réseau national. L'extension de cette centrale est en cours pour atteindre 80 MW en 2025.
À Sansan Kambilé de rappeler également l'engagement du pays d'atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030.
Cet engagement a été revu à la hausse lors de la COP26 à Glasgow, avec un objectif porté à 45%, dont 12% d'énergie solaire.
Cette réunion se tient en prélude à l'Assemblée générale prévue au siège de l'Asie à New Delhi en Inde. L'Asie pourrait permettre d'identifier les freins au développement de l'énergie solaire en Afrique et proposer des solutions concrètes pour répondre aux défis de l'accès à l'électricité sur le continent africain. On rappelle que l'Afrique détient environ 40% du potentiel solaire mondial.
Un compte-rendu de Mata Touré. La sixième session de la commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire s'est tenue hier jeudi à la salle de conférence de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. 41 dossiers ont été étudiés à cette occasion. Junior Gardin.
Ouverte par le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Sako Oumar, la session a été présidée par Koulibaly Kafouna, directeur de la circulation et de la sécurité routière. Au cours de cette session ordinaire, 41 dossiers étaient inscrits pour traitement. Il s'agit de 14 cas d'accidents mortels, 17 cas d'accidents corporels, 9 cas d'accidents matériels et 1 cas d'infraction. Au terme de la session, 26 permis ont été sanctionnés de manière ferme de 3 mois à 5 ans, dont un retrait de 6 points pour conduite en état d'ivresse. 6 permis condamnés avec sursis pour une période allant de 3 à 6 mois, une restitution et 8 cas d'absence. Profitant de cette session, Sako Oumar a souhaité que la sensibilisation soit accentuée afin de diminuer les fautes de conduite, ce qui conduira indubitablement à la réduction de la fréquence des sessions de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire. Depuis la réactivation de cette commission de 2018 avant la session de ce jour, 2046 permis ont été sanctionnés, dont 113 restitutions, 326 condamnations avec sursis et 1601 suspensions fermes pour des périodes allant de 3 mois à 15 ans. Notons que la commission est composée de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, du parquet, de l'OSER, de la police spéciale de la sécurité routière, la gendarmerie nationale, la Direction générale de l'administration du territoire, du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport et du syndicat des transporteurs.
l'entrepreneuriat dans cette édition. 100 femmes de la commune de Koumassi ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat initiée par le district autonome d'Abidjan. Selon le chargé de formation, suivi et évaluation de projets au centre d'incubation du district, l'objectif est de former les femmes à l'auto-emploi. On écoute Djomon Akré-Blaise.
L'objectif de cette formation est d'abord d'initier les femmes à l'auto-emploi, c'est-à-dire quoi? Leur donner les rudiments, les éléments, les outils pour leur permettre de bien mener leurs activités. Dans cette première phase, nous avions formé 100 femmes de la commune de Koumassi. Pour le moment, nous n'avons pas catégorisé les femmes qui étaient concernées, en tout cas toutes celles qui entreprennent une activité à caractère économique. Depuis 2014, sous la houlette du Premier ministre, qui fut donc ministre-gouverneur en son temps, a initié le prix à la femme Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est un concours qui consiste donc à apporter un appui financier et technique à tous ceux qui ont des projets, mais qui peinent à trouver le financement nécessaire. Et c'est dans cette dynamique que nous avions constaté qu'il y a une faible participation des femmes. Et donc, nous avons décidé, dans un premier temps, d'apporter la formation nécessaire à ces dames et, bien entendu, leur demander de s'approcher du district autonome d'Abidjan, espérant trouver les fonds nécessaires pour réaliser leur projet. Nous demandons donc à tous les jeunes, hommes comme femmes, de nous approcher afin d'espérer bénéficier d'un financement pour la réalisation de leur projet.
Djomon Akré-Blaise, chargé de formation, suivi et évaluation de projets au centre d'incubation du district autonome d'Abidjan. Et puis autosuffisance en produits sanguins, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, requiert pour chaque pays le prélèvement d'1% de la population. Ainsi, le besoin de 30 000 poches de sang en Côte d'Ivoire s'explique par le fait de sa démographie estimée à 30 millions d'habitants. Nous dit Yao Patrice, il est chargé des questions médicales au Centre national de transfusion sanguine.
L'objectif des 300 000 poches est à arrimer à la population vivant en Côte d'Ivoire, qui est estimé à environ 30 millions d'habitants. L'OMS estime que pour qu'un pays soit autosuffisant, il faut prélever entre 1% de la population et 3%. Et donc le 1% de 30 millions correspond donc aux 300 000. Voilà la simple raison qui nous a valu de définir comme objectif les 300 000 poches à prélever pour cette année.
Mais cette volonté d'autosuffisance en produits sanguins, est-ce qu'elle ne viendrait pas d'une pénurie de sang en Côte d'Ivoire?
Bien sûr, mais avant d'aborder dans ce sens, sachez qu'il est difficile d'être autosuffisant en produits sanguins, même dans des pays dits développés. Il faut seulement chercher à satisfaire tous les besoins, de sorte à ce que personne ne perde la vie par manque de sang. Malheureusement, on constate encore dans notre contrée qu'il y a parfois des situations où le produit sanguin n'est pas disponible.
Docteur Patrice Yao du Centre national de transfusion sanguine. Page africaine, ce 30 août est la journée nationale de la libération au Gabon, où la transition est à mi-chemin. Il y a tout juste un an, les militaires menés par le chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, renversaient Ali Bongo dans la foulée de l'annonce de sa réélection après un scrutin contesté. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile ont rejoint les institutions en vue d'organiser les élections, prévues donc au plus tard en août 2025. Et puis rappelons que sur le plan international, un an après le coup d'État, le Gabon a réintégré la CEAC, dont il avait été suspendu, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Sans transition, nous retrouvons pour la revue des titres Jean-Claude Comé. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. C'est une nouvelle qui va réjouir sûrement les automobilistes abidjanais. La deuxième phase de l'échangeur situé entre les communes de Trejville et Makori est terminée. Et comme l'annonce Fraternité Matin, cette seconde phase de cet échangeur ivoiro-japonais sera inaugurée aujourd'hui. Information que confirme le Genre Plus, le mandat, et qui indique que le vice-président ivoirien Thiemo Kome Ilekone inaugure l'infrastructure qui porte le nom de l'ex-premier ministre japonais décédé, Shinzo Abe. Au-delà de cette information, certains journaux sont à fond dans le marketing politique ce vendredi, mettant en exergue les activités des partis dont ils sont proches. Et c'est dans ce sens que s'inscrit le Patriote, qui estime qu'après sa restructuration, le RHDP est devenu un parti moderne, maître du terrain et proche des populations. Des restructurations qui sont à mettre au compte du président du parti, Alassane Ouattara, un président donc hors norme, selon Alain Donwaï, coordonnateur principal du RHDP dans l'Anawa. Et puis le nouveau réveil proche de l'opposition vend lui aussi les mérites du président du PDCI en présentant Thiam comme l'espoir des Ivoiriens. Un autre parti qui intéresse la presse, c'est le PPACI, et c'est paradoxalement l'avenir proche du RHDP qui, scrutant le parti de Gbagbo, estime qu'il est plus fragilisé que jamais à 14 mois de la présidentielle de 2025. En réponse à cette affirmation, Le Temps rétorque que sur le plan de la gestion du RHDP, notamment au niveau du plateau technique, au niveau sanitaire donc, concernant le plateau technique et des centres de santé, ce parti est cloué au pilori par donc le PPACI et qui fait des propositions pour stopper notamment la saignée dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que dit autrement le quotidien d'Abidjan avec ce titre: fuite des cerveaux de la Côte d'Ivoire. Le PPACI accuse le RHDP et propose des solutions. Parlant de solutions, ils sont à la recherche pour résoudre donc la situation qu'ils vivent. Et sur ce sujet, les difficultés qu'ils rencontrent sont tous unanimes, en tout cas les journaux, pour plaider une aide du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et c'est ce que a fait hier le président de la Conférence nationale des directeurs de publication, Sidi Terra, dont les propos sont repris par la quasi-totalité des journaux, quelle que soit leur ligne éditoriale. Et nous pouvons lire, par exemple, sur l'Essor, Terra Sidi, président de la CNDPCI, je lance un appel solennel au président Ouattara et sur notre voie, pourquoi nous voulons rencontrer le président Ouattara. Le rassemblement de conclure que la CNDPCI lance un SOS au chef de l'État. Autre sujet à lire dans Fatinté Matin notamment, c'est un dossier sur la vie sentimentale donc des couples mariés et qui, quoique liés en tout cas par le mariage, cohabitent au lit. À suivre donc.
Merci à vous Jean-Claude. Excellente journée. Dans quelques instants, l'invité de la rédaction. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises a récemment décidé de suspendre l'activité de plusieurs entreprises de fabrication de matériaux de construction. Invité de la rédaction, le directeur de l'industrie dans ce ministère, Trabi Emmanuel, revient sur les motivations de cette mesure, mais également sur d'autres sujets. Il est interrogé par Linda Ballier.
Bonjour Monsieur Trabi.
Bonjour Madame.
Alors le ministère du Commerce et de l'Industrie, parlons de respect des normes de qualité, a décidé de suspendre l'activité de plusieurs unités de production dans le secteur des matériaux de construction. D'abord, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement?
Il s'agit de faire appliquer la réglementation donc en matière de qualité des matériaux de construction qui sont produits en Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le cadre donc de la promotion de la qualité et de la sécurité des consommateurs, donc des Ivoiriens, le gouvernement a pris un certain nombre de textes réglementaires et législatifs. Depuis 2013, l'Assemblée nationale a adopté une loi relative à la normalisation et à la promotion de la qualité qui a été déclinée en plusieurs décrets, dont un décret qui a été pris en 2016 qui rend les normes de 16 familles de produits industriels d'application obligatoire. Et ces produits, c'est en général les produits alimentaires, les matériaux de construction, les produits cosmétiques, etc., etc. Et ces textes font obligation donc aux entreprises de respecter strictement les normes relatives à leurs produits. C'est ainsi que les agents assermentés du ministère du Commerce et de l'Industrie ont été commis, sur instruction de M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr. Souleymane Derasouba, d'aller s'assurer sur le terrain que les normes relatives aux matériaux de construction, qui jouent un rôle extrêmement important dans l'économie et dans la vie quotidienne des Ivoiriens, que les normes donc de ces produits soient respectées par les entreprises qui les produisent. Et donc, depuis le jeudi dernier, les agents assermentés ont visité un certain nombre d'entreprises. Et évidemment, celles qui ne sont pas en règle ont vu leurs produits saisis, leur activité stoppée, non pas pour les empêcher de travailler, mais bien au contraire, pour les amener à se mettre à niveau et donc à respecter la réglementation qui régit leur activité en Côte d'Ivoire.
Et donc, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des unités qui sont concernées par cette mesure de suspension?
Je ne vais pas citer nommément les unités, mais en Côte d'Ivoire, on a plus d'une douzaine d'unités industrielles donc, qui existent dans la fabrication des matériaux de construction, et essentiellement ce qu'on appelle les fers à béton. Et on a engagé des actions qui nous a permis d'identifier une demi-douzaine d'unités qui ne disposaient pas des documents attestant de la conformité de leurs produits, donc des fers qu'ils fabriquent aux normes qui sont rendues d'application obligatoire.
Est-ce que cette mesure de suspension est circonscrite dans un délai?
Oui, l'objectif n'est pas de suspendre pour suspendre, c'est juste une suspension temporaire, provisoire, qui consiste juste à amener les entreprises à se conformer rapidement.
Donc vous n'avez pas donné concrètement de délai pour cette mise en conformité? Disons, par exemple, une suspension d'un mois, une suspension de deux semaines?
Non, il y a des délais qui sont inscrits dans la loi. La loi dit qu'on peut suspendre pour une durée n'excédant pas trois mois. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous faisons. Si l'entreprise ne s'exécute pas, eh bien, elle restera fermée dans la durée prescrite par la loi. Mais nous les avons encouragés à l'effet de se rendre très rapidement auprès de la société concessionnaire Codinom pour se mettre en règle, de sorte que si l'entreprise, après deux semaines, une semaine, parvient à avoir les documents nécessaires, donc à faire la preuve que ces produits respectent les normes, bon, il n'y a pas de raison, surtout que ces entreprises emploient des Ivoiriens, donc on ne va pas leur dire parce que la loi a dit trois mois, on va attendre d'abord trois mois, non.
Donc c'est aux unités concernées de se mettre en conformité et de venir vers vous pour faire la preuve de ce que, maintenant, on est conforme aux règles.
Exactement, madame, exactement. Parce que nous ne voulons pas prendre le risque de laisser ces entreprises qui travaillent, vous me permettez, au mépris des règles qui régissent leur activité, mettre sur le marché des produits qui ne sont pas conformes aux normes. Ça serait faire courir aux clients, aux consommateurs ivoiriens, évidemment, le risque d'accident.
Et donc, quelle serait la prochaine étape au cas où ces entreprises-là ne se mettaient pas en conformité?
Parallèlement à l'action, on a dit une sanction administrative que nous avons donc prise à l'encontre de ces entreprises, c'est de les accompagner aussi, voyez-vous. Et c'est ce que nous faisons à travers Codinom, qui va donc envoyer des auditeurs dans ces entreprises à l'effet de diagnostiquer leurs outils, leurs processus de production, les dispositions qu'elles ont prises, elles ont fait des recommandations. Bien évidemment, si une entreprise décidait de ne pas se soumettre aux recommandations qui lui seront formulées, ben, on sera obligé d'être beaucoup plus strict dans l'application de la loi.
Si vous aviez un message à leur adresser aux propriétaires de ces unités?
Oui, c'est d'abord de les féliciter, de créer des emplois, créer de la richesse, mais en même temps, nous les encourageons à travailler en respectant les normes, en respectant la législation qui régit les secteurs d'activité. Et ici, il s'agit pour elles de respecter les normes de qualité, qui va d'ailleurs leur permettre d'être beaucoup plus compétitives d'ailleurs sur le marché, non seulement le marché national, mais pourquoi pas à l'international.
Et à l'endroit des usagers consommateurs?
C'est d'appeler leur vigilance, surtout ceux qui sont dans la construction, de les amener à utiliser des produits de qualité, mais des produits qui conviennent aux spécifications des bâtisses qu'ils veulent ériger. C'est très important.
Merci beaucoup, Monsieur Trabi Emmanuel.
C'est moi qui vous remercie.
Vous l'avez bien suivi, Emmanuel Trabi, directeur de l'industrie au ministère du Commerce, l'industrie de la promotion des PME, était notre invité ce matin, interrogé par Linda Ballier. L'entretien a tourné autour de la récente décision prise par le ministère de suspendre l'activité de plusieurs entreprises de fabrication de matériaux de construction. C'est la fin de ce 7h, le rappel des titres. La 6e réunion du comité régional pour la région Afrique de l'Alliance solaire internationale s'est ouverte mercredi à Abidjan. Tous les acteurs clés du secteur sont présents pour discuter des avancées. Les puissantes femmes de la commune de Koumassi ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat initiée par le district autonome d'Abidjan avec pour objectif de former les femmes à l'auto-emploi. De chez nous, ce 30 août est la journée nationale de la libération au Gabon, où la transition est à mi-chemin. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h. D'ici là, Mel Emmanuel vous entretient pour les Matins de la Paix.